bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Aïda au micro, une maman française installée à Savannah dans l'état de Georgia aux États-Unis. Elle nous raconte la rencontre avec son mari et puis l'expansion de la famille en Corse, en France, qui les poussera en fait à venir s'installer aux États-Unis. Elle reviendra d'ailleurs sur son expérience d'accouchement et de suivi de grossesse dans une maison de naissance aux États-Unis. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Aïda.
Salut.
Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Je sais que tu n'es pas seule, tu es accompagnée en ce moment même, donc c'est bien, on va partager le micro à trois.
Exactement.
Alors, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
Alors, moi, c'est Aïda. Je vous parle actuellement de Savannah, en Géorgie, aux États-Unis. Ma famille est composée de mon copain, qui s'appelle Whit, et de mes enfants, que je surnomme affectueusement Little Jay et Tanguy. Je donne pas leur prénom, donc je les surnomme ainsi. Et Little Jay, il a presque 2 ans et demi. Et Tanguy, qui m'accompagne actuellement, 3 mois.
3 mois déjà ?
Eh oui, ça file.
Oui, parce que je comptais quand même t'interviewer depuis pas mal de temps. Je suis contente qu'on l'ait fait avant qu'il ait 15 ans. Pas mal. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite rétro française, il me semble, à savoir un peu d'où tu viens et surtout ton background culturel familial, si ça se dit.
Ouais, bah écoute, moi je suis française, d'un papa marocain et d'une maman française. J'ai grandi en Bretagne, à Saint-Malo. On est très fiers de nos origines bretonnes, les Bretons. Et même si j'ai passé la plus grande partie de ma vie à Paris, dans mon cœur, je serai toujours bretonne.
Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter la rencontre avec ton conjoint ? Il me semble que ce n'est pas en France, il me semble que c'est dans un autre continent.
Exactement. Comme je disais, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à Paris. Donc, notamment, j'ai fait mes études supérieures là-bas et je me suis trouvée un boulot de juriste que je détestais au plus haut point.
Bien entendu.
C'est charmant. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a tellement pris la tête que j'ai décidé de tout plaquer, de me barrer seule en sac à dos en Asie du Sud-Est. D'accord. Et c'est en fait là-bas que j'ai rencontré mon chéri, donc plus exactement au Laos.
Ok, très sympa. Exotique.
Exactement. Je dis toujours, c'est exotique. Je me la pète un peu avec notre rencontre. Mais moi je faisais mon...
t'as bien raison.
Moi, je faisais mon trip en sac à dos toute seule comme une grande. Et lui, en fait, il était en permission, en vacances, si tu veux. Parce qu'en fait, à l'époque, il était à la Légion étrangère, donc dans l'armée, en France.
D'accord. Donc, il était au Laos en uniforme ou au Laos en claquette ?
En claquette, exactement. Non, d'accord. Il était en vacances, donc si tu veux, le treillis et les Rangers étaient rangés au placard. Quoi.
Et c'est quoi alors du coup lui son background culturel ? Parce qu'il me semble qu'il n'est pas français.
C'est ça, donc lui il est américain.
D'accord, d'où les claquettes.
Exactement. Donc okay. Du sud en fait, lui il est né et élevé ici à Savannah en Géorgie. Donc voilà, l'américain du sud, bien fier de ses origines.
Ok. Combien de temps vous restez au Laos et comment ça se passe après votre relation ?
Écoute, ça s'est fait très vite. Donc on s'est rencontrés, on a bien accroché, on est resté 2-3 jours à voyager ensemble, à passer d'une
d'accord.
ville à l'autre.
Tu l'as accroché à ton sac à dos ? Ouais.
C'est ça, c'est plutôt lui qui m'a accroché à son sac à dos parce qu'il a plutôt les épaules pour me porter. Et en fait, bah, lui, ses vacances arrivaient à leur terme et moi, je continuais mon petit trip et on est resté en contact et ça a débouché sur, en fait, 2 ans de relation à distance.
D'accord. Bah, dis donc, 2 ans quand même.
Ouais, on est resté 2 ans à distance.
Parce que j'imagine que vous êtes tous les deux rentrés en France, mais c'est juste que, bah non, toi t'étais à Paris.
Lui, c'est ça, en
coup,
fait.
Il était où ? Qu'est-ce
lui,
qu'il
il était basé en Corse. Donc en fait, il y a un régiment de la Légion étrangère en Corse, en Haute-Corse. Moi, j'étais à Paris. Donc en fait, en plaquant mon job, j'avais quand même gardé mon appart. Et donc il fallait bien rentrer un jour ou l'autre. Et, et voilà, moi j'ai repris ma vie d'antan, ma vie pas drôle comme avant. c'est pour ça qu'on est resté aussi longtemps à distance. Et en fait, le truc qui m'a fait descendre en Corse, qui m'a fait m'installer là-bas, c'est qu'un jour, avec l'armée, il a eu un super grave accident de plongée. Clairement, il a failli y passer. Et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est maintenant. Là, pour le coup, je plaque vraiment tout. Appart, job, pote, famille, tout ce que tu veux. Et je vais m'installer avec lui en Corse.
Ok. Bon, bah, j'espère que ça allait quand même, parce que ouais, c'est toujours un peu dangereux la plongée. Alors, comment ouais, ça se passe, lui comment ça... Pardon. quelle est la particularité, lui, de son métier? Parce que, ok, il fait partie de la Légion étrangère, mais... Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est ? Parce que je suis désolée, je suis quelqu'un qui n'a absolument aucune culture générale. Donc,
bon, non, dis pas ça.
Ça
non,
partie
non,
de
moi
quoi
aussi,
ça fait partie de l'armée française.
C'est ça. Mais avant de le rencontrer, moi non plus, je connaissais absolument pas. Et en fait, c'est un corps de l'armée française qui ne recrute que des étrangers. Alors, il ne faut pas trop me poser de questions sur l'histoire de ce corps de l'armée française. Je sais que ça a été créé il y a très très longtemps.
Demandé quand est-ce que ça a été créé.
Non, mais
quel est le ratio
alors, je sais
de
que
la
c'était
finalité.
Avant 1900. Ça, je sais pas. Je sais que ça a été créé avant 1900. Ah. J'ai pas la date exacte.
Ok.
Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens des pays de l'Est. Si tu veux, en fait, ça a été pendant longtemps le refuge de tous les débris, si je puis dire, des blocs de l'Est et surtout de tout ce qui était lié au fascisme. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de SS en fait, qui se sont engagés à la Légion. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai qu'au début, quand ça a été créé, c'était vraiment connu pour être... Le recueil de tous les malfrats.
Ouais. C'est un peu l'ambiance.
Ouais, ouais. Non, je ne recommande pas. À tous tes auditeurs, si vous connaissez des gens qui veulent s'engager à la Légion étrangère, je ne recommande pas.
Ouais. Mais alors, comment ça se passe, lui, ces contrats? Parce que je croyais qu'ils vivent sur base, non? Des trucs comme ça?
Exactement. Donc, en fait, ils signent un contrat de 5 ans en premier lieu. Qui est renouvelable sur 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Et ils vivent sur base, comme tu dis. Et en fait, le premier contrat de 5 ans est très strict. Ils n'ont pas le droit d'avoir un appartement, ils n'ont pas le droit d'avoir une famille. Enfin, c'est très spécial.
Ouais. C'est chelou, cette histoire. Et donc, du coup, lui, quand il était en Corse, c'était pour son premier contrat de 5 ans, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Et ça faisait combien de temps, du coup, qu'il était en Corse quand vous vous êtes rencontrés au Laos?
Ça faisait entre 1 an et 1 an et demi.
Donc, tu plaques tout à Paris, tu arrives en Corse, et à quel moment vous décidez d'étendre la famille une fois là-bas?
Alors, j'aime bien raconter cette petite anecdote parce que je la trouve très mignonne. En fait, on datait depuis genre 1 mois, à distance en plus.
Ouais.
Et il m'a dit qu'il voulait un petit gamin à lunettes avec moi. Je sais pas d'où c'est sorti.
Pourquoi lunettes ?
Je sais pas. Il avait dans sa tête cette image du petit gamin à lunettes et il m'a sorti ça après 1 mois de dating. Donc bon, moi j'étais un peu hallucinée, mais je trouvais ça très mignon.
Il est fan d'Harry Potter, non ?
Même pas.
Ouais, étonnant. Ok.
Donc je dirais que après à peu près 6 mois en Corse, on décide de mettre un bébé en route. Et moi, je pensais qu'après des années de pilules, et puis en plus j'avais eu des antécédents médicaux, j'avais eu une assez grosse conisation quelques années auparavant. Voilà, je pensais que j'avais des mois, voire des années devant moi, si tu veux. Et ben non, 3 semaines après, j'étais enceinte.
Oh bah purée. Bah ouais. C'est bien, donc t'arrives en Corse, tac tac, 6 mois après, t'as eu le temps de faire le tour de l'île, quoi.
Ah, c'est ça, voilà, j'ai bien profité, et puis... 3 semaines après avoir décidé de lancer le bébé, bah, j'étais enceinte.
Bah, dis donc. Et alors, ne nous spoil pas s'il va avoir besoin de lunettes ou non. Avant, j'aimerais bien, parce que je pense que ça va être intéressant pour la suite de notre épisode, que tu nous racontes exceptionnellement le suivi de ta grossesse et ton accouchement en Corse.
Oui, bien sûr. Donc en fait, comme on était dans un désert médical, il fallait rouler dans la montagne pendant à peu près 1h40 pour trouver le premier gynéco. Super.
Sympa.
En fait, j'avais une sage-femme qui venait dans la ville où j'habitais chaque mois. C'était assez spécial parce qu'en fait, elle recevait ses consultations dans un algéco, tu sais, les trucs préfabriqués, là.
Ok, un bungalow au camping.
Non, mais tu sais, les rectangles en plastique, là. Je dis algéco, il me semble que c'est un nom de marque, mais ouais, un bâtiment préfabriqué. Donc, ça faisait
Sympa.
Un peu, comme tu dis, ça faisait un peu camping, quoi.
Ah ben, on reste dans l'exotisme, c'est très bien.
C'est ça.
Je
Ah non,
pas
mais
de thème.
Pour moi, la Corse, c'était une première expatriation. Hein. La Corse, c'est pas la France. Je t'assure.
Je sais pas, je suis jamais allée en Corse, donc j'ai pas envie de brusquer les Corses ou quoi que ce soit.
C'est magnifique.
Mais alors,
les Corses okay. sont adorables, mais c'est pas la France.
Mais le suivi de grossesse se fait en montagne, en camping, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Mais la chance que j'ai eue, du coup, c'est que comme elle venait dans ma ville chaque mois et qu'elle était formée ouais. aux échographies, j'avais droit à une échographie par mois. Et en fait, à la base, je voulais un accouchement dit naturel. Ça allait aussi dans ce sens de pas de suivi par un gynéco, mais juste par cette sage-femme. Mais en fait, je me suis pas du tout préparée. J'étais là, genre, oui, bon, je vais faire un accouchement naturel, sans anesthésie, mais tu sais, genre, youpla boum, quoi, sans m'être enseignée,
ouais.
sans aucune préparation, quoi.
Et la sage-femme, elle était, enfin, je veux dire, elle te donnait pas plus de conseils que ça?
Non, elle était là, genre, oh, bah oui, si vous voulez pas de péridurale, il n'y a pas de souci, quand vous arrivez à l'hôpital, vous dites oh,
bah,
que vous
même
voulez
temps,
pas
elle
de
péridurale. En même temps, elle
était
en train de t'ausculter en pleine tente, donc bien entendu, quoi, je veux dire.
Ouais, elle était très détendue,
très
très
bien.
Cool, mais sans plus, quoi, tu vois, j'avais pas spécialement d'informations plus que ça, quoi.
D'accord. Et alors, donc, ta grossesse se passe bien de manière générale?
Au début, ça allait très bien, et en fait, après, j'ai été alitée, je me rappelle plus en termes de semaines, mais j'étais alitée un mois et demi entre le 6e et le 8e mois, à peu près.
Okay.
Donc ça, c'était un peu pénible, parce qu'en plus, mon chéri, il était pas là. Il était déployé, je sais pas où.
Donc, tu étais seule en pleine montagne, dans ton lit, c'est ça?
Exactement. Donc ça, c'était un peu
D'accord.
pénible.
Et heureusement, c'était ton premier quand même, parce qu'imagine ton deuxième. Je sais pas comment elles font, les nanas
C'est clair.
Qui doivent gérer le premier en étant alitées, hein. Franchement.
C'est clair.
Ah bah en plus, regain Tanguy est d'accord. Donc... Donc, tu alitais jusqu'au 8e mois parce que j'imagine que le 9e, ils se disent bon, les lunettes, tout est en place.
Voilà.
S'il doit accoucher,
il est prêt.
S'il doit arriver, il arrive, il sera prêt. Le produit est finalisé.
Exactement.
Comment se passe alors ton accouchement le jour J? Parce que je me rappelle qu'il est assez
rocambolesque.
Ok, on va partir sur ce mot-là.
Non, si tu veux, en fait, c'est le pré-travail qui était vraiment rocambolesque parce que, comme je disais, pour aller à l'hôpital, ça me prenait 1h40 de petite route de montagne. Et donc, en fait, j'ai fait ça au volant de ma petite Toyota Aygo, toute seule comme une grande.
Il n'était pas là, Witt ?
Il m'a rejoint après.
Il était toujours déployé ailleurs ?
Non, non, il était là, il était en Corse, mais il m'a rejoint après.
D'accord, et il n'y a pas d'ambulance en Corse ?
C'est vrai que j'aurais pu, mais en fait, comme c'est sur deux portions, je sais pas comment t'expliquer ça très clairement, mais si tu veux, c'est sur deux portions de route différentes. Donc si tu vas en ambulance, tu dois prendre une première ambulance qui s'arrête à mi-chemin.
Ah, parce qu'ils changent de département. Oh, ça me rappelle ouais. l'histoire de l'anglaise Karen, qui nous a fait la même
ah, oui.
chose pour son accouchement.
C'est vrai,
oui, ils l'ont arrêté à se demander pourquoi il s'arrêtait en pleine route.
Et ben, c'est la même chose. Ouais, exactement, c'est ça, c'est que ça changeait de département.
C'est ridicule. Donc, tu as préféré prendre la Toyota et te dire, bon, écoute, go.
Advienne que pourra.
Mais attends, c'était en pleine nuit ou c'était en plein jour? Imagine, en plus, tu te fais la nuit.
Non, c'était le matin.
Ok, bon. Et alors, l'arrivée à l'hôpital?
Bah, écoute, ça allait parce que voilà, je pense que j'étais simplement en pré-travail, donc bon, c'était pas agréable, mais c'était supportable.
Ouais.
Et en fait, je suis arrivée le jour de mon terme, j'avais rendez-vous en fait. Et le travail s'est déclenché spontanément le jour de mon rendez-vous de terme où en fait j'étais supposée être déclenchée.
Donc t'es right on time, très bien.
Exactement. Voilà. Il était très ponctuel, mon petit Little Jay.
Et alors, comment se passe ton accouchement?
Donc du coup, j'ai lutté, 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 et en fait, arrivé à 6 cm de dilatation, j'ai dit j'en peux plus, donnez-moi la péridurale.
Ouais.
Voilà, comme je te disais, j'étais pas préparée. En plus, mon mec il tardait à arriver. J'étais toute seule, j'avais pas de ballon, de liane pour me suspendre ou tout ce que tu veux. Plein de choses que je sais maintenant qui auraient pu être mises en place, mais j'avais aucune information. J'étais toute seule et j'avais mal, quoi. Donc j'ai
Ouais.
demandé la péri. Mon chéri est arrivé pile au bon moment. Donc en fait, il est arrivé lui pour avoir la période de latence tranquille où. Où en gros je dis rien et je suis shootée avec l'anesthésie.
Il a dû le dire, purée, elle est bien.
Ouais, il n'a pas eu droit au truc, tu
Elle est
sais, où
calme.
la fille elle hurle contre son mec, elle me parle pas, je déteste, pourquoi tu m'as fait ça? Donc lui il était bien.
Donc en gros, il est arrivé, il s'est calé devant son téléphone et il a regardé des vidéos,
C'est
quoi.
ça, exactement. Mais alors là où c'est drôle, c'est que du coup ils me foutent la péri. Et en plus, ils me mettent de l'ocytocine de synthèse pour accélérer le travail qui en fait est ralenti par la péridurale. Donc en fait,
Ouais,
pour compenser, si tu
mais il
veux.
y avait besoin de te mettre. Ouais, mais bon, il y en avait besoin à 6 cm.
Bah,
Si tout se passe bien.
si tu me demandes mon avis, mais moi je ne suis pas médecin, je te dirais que non. Mais en fait,
Bah
bah,
oui.
c'est simplement qu'à l'hôpital, il faut que ce soit timé, si tu veux. Parce que la sage-femme, elle n'a pas
Ouais,
que
je
toi
vois.
à gérer, donc il faut qu'elle sache à peu près à quelle vitesse tu vas dilater et à quel moment elle va pouvoir t'accoucher, parce qu'elle a d'autres mamans, futures mamans à gérer, quoi.
Ouais, c'est vrai que l'expression chat à fouetter ne rentre pas dans cette
Me serais pas
conversation.
permis.
Mais alors, donc, oui, ça se passe bien alors, toi, dans ton corps, en termes de potion hormonale, là?
Eh bien non, parce que en fait, la péri ne devait pas être assez dosée ou je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Mais juste pour moi, c'est comme si elle n'avait pas marché. J'ai été
Ouais.
tranquille pendant, je ne sais pas, 2-3 heures. Et dès lors qu'ils m'ont mis l'ocytocine de synthèse, ben c'était dur. J'allais
Douloureux,
dire que c'était une
ouais.
torture, mais je veux pas faire flipper les mamans,
Non, mais j'imagine.
mais
Mais
ouais.
bon, je pense que ça a réveillé 8, hein, faut voir le bon côté des choses.
Ah bah là, il était bien content que je lui broie
Lia.
la main, mais non, non, ouais, c'était pénible.
Non, ma pauvre, bah oui, et puis donc tu leur as dit quand même que t'avais mal?
Ouais, et alors écoute, figure-toi que l'infirmière est arrivée et qu'elle m'a dit, ah bah oui, c'est normal, il n'y a plus de produits.
Ok, bah merci, merci d'être passé.
Ah bah c'est ça, voilà. Ah bah, si j'avais su, écoute, j'aurais appuyé sur le petit bitonio là pour appeler les gens plus tôt. Voilà, en fait, elle me laissait là toute seule dans ma douleur, sans anesthésiant. Et donc, je lui dis, bah écoutez, on va remettre une dose, hein, parce que là, c'est pas possible. Ah non, 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 mais là, en fait, bah, vous arrivez à dilatation complète, donc eh bien, on va commencer à pousser, et puis c'est pas la peine de vous remettre de l'anesthésiant, madame.
D'accord. Bon, bah sympa. Donc, mais alors la poussée a duré longtemps quand même, en
Non.
dehors des douleurs.
Par contre, il est arrivé très très vite. En 2 poussées, il était là. Je pense que j'ai dû pousser pendant 5
Ah.
minutes et il était
Ok.
là.
Bon, il y a quand même du. Et attends, il est né avec des lunettes alors ou sans lunettes?
Eh ben non, il n'a pas été livré avec les lunettes.
Il devait être triste, ton mec. Oh là là.
Il a que 2 ans et demi. C'est pas tout n'est pas perdu.
Non, je plaisante. Mais alors, comment ça s'est passé la rencontre avec les Lodgers?
Ah bah bien, j'ai pas eu ce coup de foudre dont tout le monde parle, mais écoute, j'étais contente qu'il
Oh,
soit
t'inquiète
là.
pas. Je suis contente qu'il soit là. Bon, ça fait 2 ans. On le supporte.
Pour l'instant, tout va
J'attends
bien.
toujours l'étincelle.
C'est terrible.
Et combien de temps alors tu restes à l'hôpital en France?
Alors, il me semble que le protocole, c'était 3 jours. Mais Little
Ouais.
Jay, il avait un petit problème de prise de poids. Tu sais, il avait perdu plus que 10% de son poids de naissance.
Ouais.
Et comme j'allaitais exclusivement, je voulais allaiter exclusivement, apparemment il avait du mal à reprendre. Pas qu'il ait spécialement eu du mal à téter ou quoi, mais je pense que ma montée de lait a tardé et que du coup ça a pris du temps. Et donc en fait ils m'ont gardé un jour de plus.
Ok. Et comment ça se passe alors le retour à la maison? Parce que j'imagine que oui. Est-ce que lui il pouvait avoir des jours de congé ou non?
Alors écoute, légalement, oui. Mais dans les faits, ça ne se fait pas. Donc, non, il n'a pas eu de
Ouais.
jour de congé. Et ce qui était génial, c'est que une semaine de vie de mon petit, il est parti en mission pour 10 semaines.
Ah ouais?
Donc, en fait,
Oh.
je suis rentrée à la maison. Mon chéri a dû profiter du bébé 2 jours. Et puis, il est parti pour 10 semaines.
Bah, 10 semaines quand même.
Ouais.
Et alors attends, il y a quelqu'un qui est... Tes parents, ils étaient installés en France, non?
Bah, ma mère en France et mon père au Maroc, et personne n'a pu me rendre visite.
Comment t'as géré tes 10 semaines seule
Je n'ai pas
en
géré.
Corse?
J'avais un bébé
J'ai pas
RGO.
géré.
Ah non, mais pas du tout. C'était un postpartum très très compliqué. Mon bébé était RGO, il pleurait beaucoup. RGO, reflux gastro-œsophagien. Donc il était très douloureux, il pleurait beaucoup, il dormait pas beaucoup. C'était dur. En fait, j'avais pas de relais,
Ouais.
donc c'était dur.
Bah, c'est ça, oui.
Plus, j'avais très peu de connaissances là-bas, j'étais très isolée en fait. Quand je te dis que la Corse, c'est pas la France, c'est. Mais voilà, moi je dis toujours que c'est ma première expatriation parce que c'est un autre pays, quoi. C'est une autre culture, c'est pas évident de se faire des potes. En plus, moi j'étais littéralement dans un village, si tu veux. J'étais dans une station balnéaire qui passe de 4 000 habitants l'hiver à genre 35 000 l'été. Et moi,
Ah
mon
la
fils,
vache,
il est
ouais.
né en hiver. Donc, il n'y avait personne. Tout était fermé. J'avais une copine, mais qui n'avait pas d'enfant et qui n'était peut-être pas forcément super à l'aise
Oui,
avec
donc
ça. Et puis, très
ouais.
honnêtement, tu passes un postpartum pourri, sauf que personne t'a dit que le postpartum, ça pouvait être pourri. Et t'as pas envie de dire aux gens que t'es sous l'eau, quoi. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'était
Ouais.
ça. J'avais pas envie d'avouer que j'y arrivais pas, quoi.
Donc j'imagine que quand il est revenu 10 semaines après, tu lui as dit, écoute, c'est simple, c'est les claquettes en Corse ou moi ailleurs, c'est ça?
C'est ça. J'ai dit, j'en peux plus.
Ouais.
Je te déteste. Merci. Donc, c'est soit la Légion, soit nous. Voilà.
Comment ça s'est passé du coup tous les, enfin je veux dire, comment vous en êtes venu à prendre une décision à partir bah, aux États-Unis, là, entre autres.
Bah alors du coup, lui, il lui restait moins d'un an de contrat. Et il m'a dit, oui, t'as
Ouais.
raison. De toute façon, la Légion, c'est nul. Voilà, j'arrête. Et
OK.
on décide de partir vivre aux États-Unis parce que je pense que mon chéri, déjà, il aime beaucoup son pays.
Il a sa famille là-bas?
Ouais, alors voilà,
Ouais.
il y a sa famille, il y a le fait aussi qu'il est très patriotique. Je sais pas si c'est un mot, mais patriote.
Je crois que ça dit patriote.
Bon. Et puis moi, je suis pas proche de ma famille en France. Et si on avait décidé de partir au Maroc, ça aurait été trop compliqué au niveau de l'immigration, au niveau des papiers. Donc voilà, on s'est décidé sur les États-Unis.
Mais toi, tu te sentais, bah, tu me diras, tout semblait mieux que la Corse ou parce que s'il revenait aux États-Unis, du coup, est-ce que lui retournait dans l'armée américaine ou est-ce que non, il changeait complètement de voie?
Il changeait complètement de voie. La Légion étrangère, c'est pas du tout lié, c'est vraiment encore de l'armée française, donc c'est pas du tout lié à l'armée américaine.
Oui, mais il aurait pu rester dans le même type de carrière, tu
C'est
vois ce que
vrai.
je veux dire?
Mais du coup, non, pas du tout. En
Bon,
fait,
bah.
lui, il est rentré, il a repris ses études. Et ouais, il a plaqué tout ça.
Ok. Et toi, tu te sentais comment, la Géorgie?
Pour tout te dire, moi, j'étais juste contente que finalement, on soit enfin une vraie famille qui passe du temps ensemble. Et
Ouais.
j'aurais pu partir n'importe où, en fait. Je m'étais pas du tout renseignée. Les États-Unis, j'y avais voyagé déjà avant, jamais en Géorgie. Mais je m'étais pas renseignée sur l'État, sur l'histoire, sur voilà, le fait que c'était un État du Sud. Non, non, j'étais ravie de venir là sans. Comme tu disais, ça ne pouvait pas être pire que la Corse de toute façon.
C'est
Mais
clair.
pas d'appréhension, non.
Ouais, et l'anglais, j'imagine que tu le maîtrisais quand même
Oui.
depuis autant d'années de relations.
Ouais,
C'est vrai que je
plutôt.
t'avais pas posé la question au début, mais d'accord. Et lui, il parlait français dans tous les cas, lui, quand même,
Oui.
s'il était dans la Légion française
Ouais.
étrangère, je sais plus comment on dit. Ok.
Légion. On dit Légion étrangère française, donc tu n'étais pas
Et presque. Et alors,
loin.
vous avez dû vous marier pour rentrer sur le territoire américain ou comment ça s'est passé?
Alors en fait, ça aurait été plus simple, effectivement, si on avait pu se marier avant pour que je parte avec un visa épouse. Mais la Légion étrangère t'interdit de te marier. Donc,
C'est vraiment bizarre comme truc, hein. Ah oui, parce qu'il était dans son contrat initial de 5 ans, c'est ça?
c'est ça.
C'est quand même dingue parce qu'imagine, tu démarres à 30 ans, de 30 à 35, tu peux rien faire de ta vie, quoi.
C'est à peu près ça, ouais. En fait, ils font
Ouais,
tout
ça
pour pas
paraît,
que t'aies
mais.
de lien avec l'extérieur.
D'accord, très sympa.
Mais donc, du coup, on a fait
Ouais.
la procédure de visa fiancé, parce que ça, on
Ok.
pouvait le lancer tant qu'on était en France. Et on s'est mariés à mon arrivée aux États-Unis.
Alors, toi, ton arrivée aux États-Unis, comment. Comment tu te sens dans le sud?
Alors, les gens ici sont très accueillants, sont très ouverts, très pleins de compliments, très de tu es magnifique, tout ça.
Ouais.
En plus, moi, je suis arrivée en plein été, donc ma famille était avec moi.
L'humidité.
Ouais, alors ça, par contre, la météo, je me suis toujours pas faite.
La
Chaud et
vache, des
humide.
moustiques.
Ouais.
Yax.
Et en
Ouais.
plus, moi, je vis dans des marécages. Donc, si tu veux, les moustiques. Je ne comprends pas pourquoi des gens ont décidé de s'installer ici un jour. Mais écoute, c'est
Ouais.
très bien.
Non, mais alors, comment ça s'est passé ton installation quand même avec l'Eloge, du coup?
Bah écoute, au début très bien. Donc comme c'était sur les vacances d'été, ma famille était avec moi. On a fait un très beau mariage en petit comité sur la plage.
Ah.
J'habite à 10 minutes de la plage, donc ça c'est plutôt sympa.
Ah, bah, tu vois, tu te plains des moustiques, mais ça va.
Ça va,
T'as le
non,
sable.
c'est pas si terrible. Et mon fils, il avait 8 mois. Honnêtement, je pense qu'il s'est rendu compte de rien. Ouais, tant qu'il était avec moi, il était content.
Oui, bah, tu me donnes pas. Et alors, attends, à quel moment vous décidez d'étendre encore une fois la famille?
Alors, je me rappelle plus exactement quel âge il avait, le petit. Mais en fait, mon copain, il a deux frères, donc ils sont trois dans la fratrie. Et ils ont tous 18 mois d'écart. Et
Ouais.
moi, j'ai un frère jumeau.
Comme on le sait, The
Exactement.
Whirlwind, le podcast.
Donc, du
Oui.
coup, on voulait des enfants assez rapprochés. Parce que
D'accord.
c'est ce qu'on a vécu. C'est ce que lui a vécu. Et moi, ayant un frère jumeau, forcément, je voulais que Little Jay, il ait quand même une relation assez proche avec un frère ou une sœur. Et puis voilà, moi j'étais plutôt ok tant qu'on était dans les couches et les nuits hachées. Voilà, je voulais rester dans la petite enfance. Je me suis dit, si je me sors de cette période, je voudrais jamais recommencer.
Non, donc autant les enchaîner. Non, mais t'as carrément
C'est ça.
raison.
Sauf que moi j'avais jamais vraiment eu de retour de couche parce que j'allaitais encore Little Jay.
Ah bah oui, tiens,
Ouais.
comment ça se passe?
Bah écoute, en fait, on faisait pas trop attention, et c'est pareil, je me disais la probabilité pour que ça arrive, en fait, enfin voilà, je vais attendre un mois, 2 mois, 10 mois, j'en sais rien. Et ben non, c'est comme si un jour on en avait parlé de genre, ah, ce serait bien qu'il arrive maintenant, et bim, j'étais enceinte.
C'est dingue, parce
Ouais.
que je pensais vraiment que bah, pas de bras, pas de chocolat, quoi.
Et ben en fait, c'est que tu peux recommencer à ovuler sans avoir eu ton retour de couche.
C'est dingue.
Mais encore une fois, la
Bah tu vois, je dis non.
probabilité pour que ça arrive à ce moment-là,
Ouais.
c'est assez incroyable.
Bah c'est bien, tu es fertile.
Voilà, c'est ça.
Très très bien. Good for you.
Merci.
Donc attends, tu m'expliquais en off par contre que étant donné que vous veniez d'arriver sur le continent, techniquement, vous n'aviez pas encore d'assurance santé là-bas, c'est ça?
C'est ça, exactement. En fait, moi, j'attendais que ma procédure d'immigration aboutisse. Avec la green card pour pouvoir m'enrôler pour Medicaid. Parce que bon, comme on le
Ouais.
sait, aux États-Unis, les couvertures santé sont très chères. Et je peux prétendre effectivement à Medicaid. Donc j'attendais vraiment la fin de ma procédure d'immigration pour ça. Et donc on s'était pas du tout
Ok.
renseigné, on avait souscrit pour rien. Parce que en plus, comme je te dis, je pensais vraiment pas tomber enceinte comme ça, quoi. Et comme en fait, avec le Covid, les délais pour l'immigration étaient hyper allongés. eh bien, je me retrouve enceinte sans assurance.
Ouais.
Et écoute, je me suis carrément demandé
Le cauchemar,
si j'allais
ouais.
pas rentrer accoucher en France, en fait. Parce que,
Ouais, tu m'étonnes.
vu les
Tu
tarifs qu'on
m'étonnes.
nous annonce ici, je me suis demandé si c'était pas plus rentable de rentrer en France, mais carrément, voilà, prendre un billet et puis d'aller attendre dans un Airbnb et d'accoucher là-bas. Mais ce serait
Ouais.
trop drôle si c'était aussi facile. Il fallait que ce soit pas drôle et que, en fait, dans le cadre de ma procédure d'immigration, je n'ai pas le droit de quitter le territoire en
Oui,
attendant.
tant que t'as pas reçu ton EAD, ouais.
Voilà.
Oh, purée. Bah oui. Mais alors, comment vous gérez tous les deux? Vous regardez, faites des devis, vous négociez vos tarifs, comment tu t'organises?
Ben alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément posté un message sur le groupe Facebook des mamans du coin en expliquant la situation.
Ouais.
Voilà, je suis française, j'ai pas d'assurance, je viens de découvrir que je suis enceinte, j'examine mes possibilités, dites-moi tout. C'est ça.
Help.
Et donc là, les mamans du coin m'ont toutes donné plein de conseils, et notamment de me renseigner auprès de la maison de naissance qui est à côté de chez moi. Parce que effectivement, de passer par l'hôpital, on me donnait des tarifs, mais enfin, invraisemblables. On me disait ça peut aller de 35 000 dollars à 60 000 dollars. C'est toujours possible de négocier quand t'as pas d'assurance, mais ne t'attends pas à payer moins que 20 000 dollars, tu vois.
Ouais.
Moi, j'étais là, ok, peut-être pas en fait. Alors
Ouais,
que,
non,
en passant par la maison de naissance, qui en fait, c'est ce qu'ils appellent ici une midwifery, donc il n'y a que des midwives, des sages-femmes,
non. Ouais.
et il n'y a pas d'installation médicale, donc en fait, c'est forcément moins cher. Et là, on me disait, tu les appelles, tu leur en parles, et tu verras que ce sera moins de 10 000 euros, 10 000 dollars, pardon.
Mais ils entendent quoi par pas d'installation médicale? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de...
Il n'y a rien. Il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas de machine de réanimation, il n'y a pas de... Il n'y a rien.
Ok. Donc
C'est-à-dire
c'est quand
que...
même un peu... On reste dans l'exotisme, hein. Bon, tu me diras, après le camping, pourquoi pas?
En fait, enfin, pour moi, pour l'avoir vécu, si tu veux, pour te donner une image, c'est entre accoucher chez toi et accoucher à l'hôpital, parce que tu as quand même des infirmières qui sont là. Il n'y a pas de médecin,
Ok.
certes, mais tu as quand même des infirmières qui ont quand même un background médical quand même. T'es pas livré à toi-même,
Ouais.
mais c'est...
Mais t'as pas intérêt à avoir des complications, ouais.
C'est ça, sachant que de toutes les façons, aucun risque n'est pris et que tu peux toujours être transféré à l'hôpital qui est à genre 10 minutes de route de là.
D'accord. Et comment ça s'appelle alors une maison de naissance aux États-Unis? Le birth center?
C'est ça, exactement.
Et donc, du coup, tu les appelles et tu leur demandes un devis? Comment ça se passe?
Bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Pareil, j'ai appelé, j'ai expliqué la situation. Elles m'ont dit que, donc au préalable, il fallait faire un screening hyper détaillé parce qu'elles ne prennent aucun risque. Toutes les
Ouais, tu
grossesses
m'étonnes.
pathologiques sont éliminées, renvoyées vers l'hôpital. Il faut que ce soit vraiment une grossesse à zéro risque parce que, comme je disais, comme il n'y a pas d'installation médicale, elles peuvent
Oui,
pas se
tu
permettre.
peux pas. Et dans ton cas, ton premier accouchement s'étant bien passé en dehors du fait qu'ils t'ont balancé de l'hormone pour rien, t'étais good to go?
Exactement, j'ai pas été considérée à risque et donc elles m'ont fait un devis littéralement. Donc elles m'avaient dit que sans assurance, alors bon, c'est toujours pareil, désolée, mais moi pour moi c'est de la magouille.
Oh
Elles
bah
m'avaient dit
très
que
clairement.
le tarif c'était normalement 16 000 dollars, mais que sans assurance je pouvais avoir un discount de 50%.
Déjà 50%.
C'est absurde, je comprends pas comment elles font.
Ben
Enfin,
oui.
je sais pas comment marche le système ici. Vraiment, je trouve que c'est aberrant.
Ben, je crois qu'il n'y a pas de système et qu'il marche pas, tout simplement. Je crois que c'est ça le problème. C'est soit soit tu te fais avoir, soit t'essayes de négocier. Enfin, ouais, c'est un peu ridicule. Donc, quand même, tu passes de 16 000 à 8 000
C'est
juste
ça.
en un appel, c'est ça? Juste pour demander
Exactement.
un devis.
Ouais.
OK.
Et donc,
Et tu te dis, bon, bah, 8 000, ça va?
bah ouais, go. Financièrement, je trouverais pas mieux, quoi.
Ouais. Mais est-ce que c'était sans compter que tu pensais que tu allais avoir une assurance santé d'ici là?
Je me suis dit, ok, je suis prête à payer 8 000 euros, 8 000 dollars. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis finalement, à force de réflexion et puis de discussion, on s'est dit quand même, une grossesse, c'est pas anodin. Il peut se passer tellement de choses. Il faut qu'on prenne une assurance. Parce que là, pour le coup, c'est 8000 euros avec le birth center. Mais si t'es transféré à l'hôpital, tu règles tes comptes avec l'hôpital.
Oui. Et puis là, t'es en emergency room et compagnie, donc...
Donc ça chiffre.
Les tarifs doivent être différents. Donc comment ça se passe ? Comment t'arrives à obtenir alors une assurance santé ? Parce que comme tu es dans... comment ça s'appelle ? Pre-existing condition, tu vois ?
Eh ben écoute, moi je tombais là-dedans. Parce qu'en fait... pour justement éviter, si jamais il y avait d'éventuelles complications, éviter de se retrouver avec des tarifs invraisemblables, mon copain, qui est étudiant, a pris une assurance avec sa fac et il m'a déclaré, moi et notre fils, comme dépendant. Et donc, du coup, on peut bénéficier de son assurance.
Ok, bah il aurait dû faire ça dès le début, en fait.
Ouais, clairement.
Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous?
Écoute, finalement, il a repris ses esprits et on s'est retrouvés avec cette assurance. Et tant mieux, okay, parce que à la fin, donc c'est pareil, je comprends pas comment fonctionne le système, mais à la fin, avec la maison de naissance, je me suis retrouvée à payer environ 1000 dollars, genre hors parcours de soins, je sais plus comment ils appellent ça ici, mais genre complètement indépendamment de l'assurance. À peu près 1000 dollars. J'ai payé 500 dollars de déductible avec l'assurance. Tout le reste a été pris en charge. Donc, ça, c'est ce qu'elle m'avait dit. L'intégralité, en fait, le suivi et l'accouchement, c'était 16 000 dollars.
Oui, donc tout a dû partir pour l'assurance, quoi.
Ouais. Et après, j'ai dû payer quand même tous les frais de labo. Ça, c'était pas garanti par notre assurance.
Oui, voilà. C'est toujours mieux quand même que de dépenser 8 000.
Bien sûr. Ah non, mais j'étais super contente.
Mais alors, tu étais contente de cette maison de naissance ou tu t'es dit, bon, bah, maintenant que j'ai une assurance santé, je vais bifurquer vers un hôpital ?
Non, alors en fait, à la base, même si effectivement mon choix, c'était plutôt un choix financier, quand on a pris cette décision, j'ai commencé à beaucoup me renseigner sur l'accouchement physiologique, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour gérer la douleur des contractions quand tu n'as pas de péridurale, quels sont les bienfaits de l'accouchement physiologique, tout ça. Et ça m'a vachement convaincue, vu que mon premier accouchement, en fait, j'avais craqué pour la péridurale et qu'elle n'a même pas fonctionné. Je me suis dit, quitte à ramasser pendant mon accouchement, autant que je puisse rester mobile et autant que, en fait, que je ne transmette pas via le placenta des doses d'anesthésie à mon bébé, parce que c'est des doses minimes, mais ça passe quand même la barrière placentaire. Donc ça aussi, c'était un truc qui me concerne.
Mais moi, il y a un truc que je remarque quand même avec plusieurs témoignages que je reçois, par exemple, c'est qu'une fois qu'on te pose la péri, le rythme cardiaque du bébé, en général, vacille, quoi.
Ouais.
Et devient complètement inconstant. Et je sais que nous, c'est ce qui nous arrive avec Pierre. Je crois que c'est arrivé à Amélie. Enfin, c'est un truc que je remarque, par exemple. C'est qu'on te... Ouais, on te vend la péri. Comme... Et c'est vrai que c'est quand même... quand elle est bien dosée, c'est quand même très sympa. Mais tu vois, personne ne te parle qu'après, moi je me rappelle, j'avais genre des... ça me grattait de partout. Ah. Et je me rappelle, j'étais un asticot sur mon lit, je ne pouvais... J'avais dit à Mac, non mais prends le petit parce que je dois me gratter. Et ça a duré genre 2 heures de grattage intensif, quoi. J'étais un ver de terre sur mon lit. Quoi.
Et ça, c'était un side effect de la péridurale.
Ouais, de la péri.
Waouh!
Insupportable.
Ouais, bah, tu vois, encore un témoignage de plus pour dire que finalement, c'est pas forcément juste
enfin, ouais. Ouais, mais j'aimerais, tu vois, ça, personne m'avait dit, hein. La péri, ça démange. Mais bon, apparemment, ça arrive pas non plus à tout le monde. Donc, c'est pas bien grave. Comment se passe alors ton suivi de grossesse? Donc, tu décides de rester dans cette maison de naissance parce que tu t'es documentée sur un accouchement physiologique.
C'est ça, oui. Alors bon, du coup, moi, j'ai été enceinte et j'ai accouché pendant la pandémie, donc je sais pas si ça aurait été exactement la même chose hors pandémie. Mais en fait, j'avais des rendez-vous en visio chaque mois qui duraient à peu près 40 secondes. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Vous avez des questions? Non? D'accord. Bah, on se revoit le mois prochain.
Et te rends compte que rien que pour ça, ils ont dû biler ton assurance?
Exactement. Moi, je trouve ça à la limite de la malhonnêteté, en fait.
Moi, pendant la pandémie, j'y étais pas allée de novembre à genre fin janvier ou un truc comme ça, bah, pendant le deuxième trimestre, en fait.
Ouais.
je me rappelle, j'avais fait l'écho de demi-parcours, là, où tout allait bien.
Mm.
Et après, ils ne m'ont pas revue parce qu'il y a une surge des cas en Californie. Je fais, non, moi, je ne prends pas le risque d'aller chez eux. Et clairement, j'avais dit à la nana au téléphone, qu'est-ce que vous voulez que fasse ? Vous allez prendre ma tension, vous allez prendre mon poids, vous allez me demander si j'ai des questions auxquelles je vous répondrai non. Et c'est tout.
Exactement.
Enfin, je veux dire... Mais en tout cas, ils étaient pas... je pense qu'ils n'étaient pas contents parce qu'ils n'avaient pas pu biler l'assurance. Quoi. Mais bon, tant pis pour eux. Ils se trouveront un autre cobaye.
Un autre pigeon.
Exact. Ouais, j'avais un autre mot en tête qui finissait par ion et qui commence par coup. Et je me dis, ça, on va pas dire celui-là. Alors, donc j'imagine que ton suivi de grossesse se passe bien quand même, en dehors des vidéocalls qui servent à rien.
Ouais, tout s'est bien passé. Bah, j'ai eu les deux échos réglementaires, là, l'écho de datation, ouais. J'imagine, et puis l'écho morpho, comme en France.
Avant semaine, ouais.
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 Ah si, et aussi j'ai eu le test du glucose, genre vers 25 semaines, un truc comme ça.
Ok.
Mais autrement, oui, rien à signaler. J'imagine que ça aurait été le même suivi à l'hôpital.
Oui, clairement. Et alors, on va passer au jour J. Alors, comment se passe l'accouchement ? Il me semble d'ailleurs que petit Tanguy a mis du temps à pointer le bout de son nez.
Voilà, monsieur s'est fait désirer, d'où son surnom de Tanguy. Mais vraiment, je pense que c'était la grossesse la plus longue du monde entier. J'ai accouché à 41 semaines de grossesse plus 5 jours.
La vache. Et ils ont dû te déclencher. Non, ils ne pouvaient pas te déclencher vu que c'est une maison de naissance.
Et bah écoute, il a fait comme son grand frère. Il est arrivé spontanément le jour où je devais être déclenchée.
Bah dis donc. Mais je croyais qu'ils pouvaient... Ah, ils ont de l'oxytocine de synthèse quand même dans ce centre.
Ouais. En fait, tout ce qui est... alors, effectivement, c'est un geste médical, mais si tu veux, voilà, c'est juste une seringue, ça, l'infirmière, elle peut le faire. Tout ce qui est geste, entre guillemets, de base, qui peut être accompli par l'infirmière, ça peut être réalisé sur place.
D'accord. Et, bah, t'as eu de la chance, alors ? T'as évité deux fois un déclenchement ?
Ouais.
Purée, ils doivent bien t'écouter, ces enfants, c'est bien. Et alors, comment se passe, alors, ton accouchement ? Donc, j'imagine que tu arrives avec des contractions.
Alors, donc en fait, depuis le jour du terme, tous les deux jours, j'avais une consultation pour vérifier donc il y avait encore assez de liquide amniotique, écouter le cœur, et il y avait d'autres tests qu'ils faisaient sur le bébé pour voir s'il bougeait bien. Parce que bien sûr, encore une fois, hein, ils prennent aucun risque. S'ils voient qu'il y a un problème, ils t'envoient à l'hôpital. Donc, je devais y aller tous les deux jours.
Ça a du sens.
Et le jour du terme, le col était favorable. J'étais déjà dilatée à 3 cm.
Ouh.
Alors, ils m'ont fait un décollement des membranes.
Ouais, apparemment, c'est pas agréable.
C'est pas agréable, mais bon, c'est pas...
Mais
non
c'est
plus,
efficace
Eh ben non. Sûrement, en tout cas, ça n'a pas été efficace. Parce qu'il ne s'est rien passé. Quand j'y suis retournée deux jours plus tard pour... à refaire les examens, voir que tout allait bien. Ils m'ont refait un décollement des membranes.
Oh la vache, ouais. Et... Pourquoi s'obstiner, quoi ?
Non, mais attends, ouais. Et ce jour-là, j'étais dilatée à 5. C'est-à-dire qu'en fait, c'était comme si j'étais déjà en travail et que je ne le savais pas.
C'est fou, cette histoire.
Mais quand même, ils m'ont dit au bout d'un moment, voilà, il va falloir le sortir. Donc, ils m'ont fixé le rendez-vous pour l'induction. Et ouais. Comme je te disais, mes bébés sont très ponctuels. Et donc, le jour du déclenchement, j'avais rendez-vous à 10h. Et en fait, j'ai commencé à avoir des contractions vers 8h30.
Ouais, donc tu t'es pointée à 9h55. Coucou.
Exactement. Je suis là pour mon rendez-vous. Mais en fait, je pense que je suis déjà en travail. C'est exactement ce qui s'est passé.
C'est trop bien.
J'ai quand même déposé mon premier chez sa grand-mère pour être tranquille. Et donc, ouais, exactement, je suis arrivée là-bas à 10h, en fait, pour mon rendez-vous, mais j'étais en travail.
Et Witt, il était avec toi ?
Ouais, il était avec moi cette fois-ci, de A à Z. Ça, c'était très bien.
Donc, t'as pu lui hurler dans les oreilles, lui défoncer la main ?
Eh bien, même pas. Je trouve que je me suis très bien comportée, j'étais hyper sage. Je lui en ai pas du tout voulu.
C'est trop bien. Mais alors, comment ça s'est passé ? Alors, une fois que t'arrives, comment ils te prennent en charge, en fait, par rapport à... Comme ça, moi, je pourrais te comparer, si tu veux, avec un hôpital. Mais comment ils te prennent en charge ?
Donc, du coup, je suis arrivée à 10h. Ils m'ont mis sous monito pour vérifier que je disais pas des conneries, en gros. Voilà, ils veulent vérifier, en fait, que les contractions sont assez efficaces et assez rapprochées. Et donc la sage-femme, elle me met sous monito, elle me dit « Ah oui, effectivement, c'est quand même assez espacé, je sais pas si vous allez accoucher tout de suite. » Elle vérifie, et en fait, j'étais déjà dilatée à 8.
Trop bien, tu gères bien la douleur, hein.
Apparemment. Donc elle me dit « Ah bon, bah on va vous installer dans la chambre. » Donc comme je te disais, la maison de naissance, en fait, c'est vraiment au milieu, à mi-chemin entre chez toi et l'hôpital. Elle te dit « Je vais vous installer dans la chambre. » Et c'est littéralement une chambre. T'as un lit avec une petite chaise à bascule, un petit coffre où tu peux déposer tes affaires, une baignoire avec une petite salle de bain. Enfin, comme une chambre d'hôtel, en fait.
Trop cool.
Genre, trop mignon.
Ah, j'imaginais ça un peu comme chez mamie, tu vois, avec le papier peint.
C'est
petit coffre,
hyper moderne. D'accord. Enfin, moi, je trouvais ça très joli. Donc, déjà, tu arrives dans une atmosphère très relaxante. C'est vraiment sympa.
Ouais, c'est vrai que ça a changé.
L'hôpital, j'avais pas du tout aimé. Là, le lit d'hôpital, les gens qui font des allers-retours. Ouais, j'avais pas du tout aimé.
Oh non, bah déjà, t'es mis quelque part là où il y a de la place. Et après, il faut que t'attendes des plombs pour avoir ta salle d'accouchement. Et après, t'attends des plombs pour avoir ta chambre pour être reposée une fois que t'as accouché. Donc, ok. Donc, t'as eu ta petite chambre.
Voilà. La sage-femme, elle me fait couler mon bain parce que j'avais dit que je voulais, pourquoi pas, essayer d'accoucher dans l'eau.
Ok.
Bon, j'étais pas hyper convaincue de ça, mais je me suis dit, voilà, je vais essayer.
Allons-y, ouais.
Mais en fait, dès que je suis arrivée dans la chambre, c'est arrivé super vite. Et à peu près une heure après être installée dans la chambre, il fallait commencer à pousser.
Ok, donc tu as fait ça dans la baignoire finalement?
Non, même pas. Dans le lit. Donc ce qui était génial, c'est que je pouvais rester mobile, je pouvais faire vraiment tout ce que je voulais. Bon, après, tu arrives à des seuils où tu peux plus trop non plus marcher, danser, tout ce que tu veux. Mais bon, voilà, tu fais un peu comme tu veux. Et puis, tu sais, les sages-femmes, elles ont l'habitude des accouchements physiologiques. Donc, elles sont très détentes. Littéralement, elles ne sont pas dans tes pattes, quoi. Tu es là, tu fais ton truc. Et si tu as besoin, tu les appelles. Ouais. Mais, voilà, j'aurais pu accoucher toute seule sur le lit, là, avec mon chéri. Et c'est là où je ne veux pas te faire peur. Mais tu vas voir, tout est bien qui finit bien. Donc, ça faisait une heure que j'étais arrivée. Voilà, j'avais très bien géré mes contractions. Bon.
J'ai pris mon bain, je suis propre.
Voilà, tout va bien, je m'installe pour pousser. Et en fait, je galère de ouf. Si tu veux, mon premier, il était arrivé en 5 minutes. Moi, j'ai cru que c'était les doigts dans le nez. Mais mes poussées étaient complètement inefficaces. Je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, j'ai appris plus tard que c'est parce que la poche des os faisait des allers-retours.
Mais oui, parce qu'attends, on n'en a jamais parlé, mais ta poche des os, elle a jamais été rompue.
Eh bien, avant ce moment-là, non. Et donc, en fait, j'arrivais pas, mes contractions me paraissaient inefficaces parce que la poche des os faisait des allers-retours. Mais au bout d'un moment, paf, ça a éclaté. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'eau projetée partout dans la pièce. Mon mec, il m'a dit, c'était digne d'un film. Enfin, c'était le genre.
Oh, la pauvre sage-femme, du coup, qui était là en plein.
Oui.
En premier siège du film.
Non, mais c'est clair, enfin, elles ont du courage. Hein.
Ah la vache, bon, donc elle a mis les, comment ça s'appelle déjà?
Les essuie-glaces.
Ok, donc j'imagine que la sage-femme met les essuie-glaces en route.
Voilà.
Et j'imagine que du coup les contractions deviennent plus intenses, mais que tu arrives mieux à pousser, non?
Alors, c'était supposé être plus efficace, donc si tu veux, sur la contraction d'après, je pousse, et là, donc la tête arrive. Sauf que ce bébé qui est resté 14 jours de trop dans mon ventre était énorme. Et ça, personne ne l'avait anticipé, vu que... À tes souhaits, Tanguy. Et en fait, il n'y a que le front qui sort. Donc, alien, bonjour.
Oh, comment ça? Oh, le pauvre. Oh, t'as le droit de gazouiller, Tanguy, mon pauvre.
Et donc, en fait, le pauvre, il reste coincé. Et il doit attendre la prochaine contraction pour continuer sa descente, quoi.
C'est quand même long, mine de rien, on n'en parle pas d'ailleurs, hein. Et c'est toujours un peu awkward, parce que t'as toujours 2-3 minutes de battement.
Et oui!
À te regarder dans les yeux avec ta midwife, genre, coucou!
Non mais c'est clair! Et là, elle me regarde, et je la vois, et je comprends. Et elle me dit, mais tu sais, elle me dit avec un regard grave, maintenant il faut le sortir. Et en fait, donc elle m'a expliqué plus tard qu'il a fait une détresse respiratoire, une petite détresse respiratoire, parce que genre le pauvre, il est littéralement resté coincé. Et alors, si tu veux, sur la contraction d'après, la tête est sortie, mais il était tellement énorme qu'il a failli le tirer pour que les épaules passent.
Bah, 10 jours supplémentaires quand même, le petit loulou, hein. Enfin, ou je dirais
La bête. Attends, il faisait presque 5 kilos, hein.
Oh, wow. Bah, good for toi, hein.
Merci.
La vache. Bon, écoute, un beau bébé, quoi.
Eh oui.
Ok, donc ils tombent quand même pas sortis d'instrument. Ils y sont allés à la main, si je puis dire.
Ouais. Pas d'instrument. Donc, bien sûr, là, c'est même pas la peine d'envisager un transfert ou quoi au caisse.
Ouais.
Mais par contre, l'infirmière, ça, je l'ai appris après. Moi, j'étais dans mon truc, j'ai rien vu. Elle était déjà en train de préparer son petit plateau avec le shot d'adrénaline au cas où le bébé sortait sans respirer, quoi.
Ok.
C'est mon copain qui m'a raconté ça plus tard. Moi, j'ai rien capté. Mais apparemment, lui, il a pleuré parce qu'il s'est dit, ça y est, c'en est fini, quoi. Je rigole, c'est pas drôle, le pauvre.
Non, mais en même temps, je trouve qu'on a quand même la meilleure place, mine de rien. Ok, on fait tout le travail, mais clairement, on ne voit rien de ce qui se passe. Alors
c'est
que
vrai.
Tout le monde a une visu sur ce qui peut se produire. Donc,
c'est vrai. Toi, t'es dans ton truc, t'es à fond, tu te rends pas compte, alors que c'est vrai qu'autour, ils doivent vraiment... Moi, c'est ça, en fait, c'est qu'à aucun moment, j'ai ressenti le stress. Voilà, j'étais dans mon truc, il fallait le sortir, et j'ai pas eu peur, en fait. Et je pense que si tu commences à paniquer, c'est foutu, quoi.
Ouais. Graduellement, ils arrivent quand même à lui sortir le reste de son corps, après, une fois que les épaules sont passées, c'est
ouais,
ça ?
Ouais. Bon, ils sont, comme je te dis, ils sont allés le chercher, quoi, ils ont été obligés de tirer, mais... Mais il est arrivé, tout allait bien.
Ouais.
Et après, bien sûr, pour continuer, sinon c'est pas drôle, moi j'ai commencé à faire une hémorragie de la délivrance.
Oh, ma pauvre.
Donc là, j'ai eu droit au shot d'ocytocine, tu sais, pour aider l'utérus à se contracter comme il faut.
Oui.
Et à la bonne révision utérine qui va bien, sans anesthésie. Je sais pas si ça te parle. La midwife, en fait, littéralement, elle introduit sa main pour pouvoir aller palper les parois de l'utérus et être sûre que la tout est parti.
Mais ils font pas ça, nous, dans tous les cas, de manière normale ? Parce qu'une fois, qu'ils ont extrait le bébé, ils extraient le placenta. Et après, j'imagine qu'ils doivent quand même vérifier que tout se passe bien, quoi.
En fait, s'il n'y a pas de saignement trop abondant et si le placenta est entier... ils font rien, mais par contre effectivement ils vérifient si jamais les saignements sont trop abondants, ils doivent vérifier, sauf que en France, en tout cas, je sais pas comment ça se passe ici, ça se fait que si t'as encore la péridurale, et si c'est pas le cas, ça peut carrément être fait sous anesthésie générale. Donc, pour te dire le truc, tu vois, genre voilà.
Ouais.
C'est clairement pas agréable.
Non, mais du coup, sur la fin, tu regrettais quand même d'avoir accouché dans une maison de naissance ou t'aurais, enfin,
eh ben, pas du tout.
Peut-être préféré l'hôpital.
Non,
même pas.
Ce serait à refaire, je referais tout exactement de la même façon, parce que clairement, oui, ça aurait pu être un accouchement traumatique, mais je pense que j'ai été tellement entourée, tellement aimée, tellement respectée dans mes choix. Enfin, pour te dire, la midwife qui m'a accouchée, en plus, c'était une étudiante. La pauvre, elle a dû être très contente de ce cas bien spécifique. Maintenant, c'est une Facebook friend et je l'aime comme si c'était une copine, quoi.
Oh, c'est trop bien.
Mais non, je recommencerai tout pareil parce que à aucun moment j'ai stressé, à aucun moment j'ai paniqué. Elles étaient avec moi parce qu'elles étaient deux. Et bon, bien sûr, il y avait mon copain. Mais vraiment, je me suis sentie forte, quoi. Je me suis sentie entourée, aimée, littéralement aimée. Je veux dire, ces femmes, elles font un métier magnifique. Enfin, mettre des bébés au monde, c'est un truc de fou. Et elles aiment autant, je pense, les mamans qu'elles aident à accoucher que les bébés qu'elles mettent au monde. Je peux même pas t'expliquer, en fait, ça n'a rien à voir avec la première expérience que j'ai pu avoir à l'hôpital où je me suis sentie hyper infantilisée et clairement, genre, un numéro, en fait.
Oui.
Donc, non, moi, je recommande plus.
Je pense qu'elles t'aidaient à accoucher, mais elles t'ont accompagnée, quoi. Mais
exactement.
T'as été actrice de ton truc, quoi, de A à Z.
C'est ça. Exactement. Mais je me dis, tu vois, j'aurais accouché à l'hôpital. Bon, déjà, j'aurais pas dépassé mon terme à ce point-là. Si ça se trouve, ils m'auraient fait une échographie, ils auraient vu que le bébé était gros, ils m'auraient déclenché bien avant. Si ça se trouve, j'aurais eu une césarienne. Si, enfin, bon, après, avec des si, on peut tout inventer. Mais je suis persuadée que si j'avais accouché à l'hôpital, j'aurais pas eu l'accouchement dont j'avais envie. Et bien sûr, ça aurait été à 1000% différent de ce que j'ai vécu en accouchant en maison de naissance.
Oui. Et alors, comment ça s'est passé cette fois la rencontre avec Tanguy ?
Très bien. Je n'ai toujours pas eu le coup de foudre dont on parle, mais je l'ai trouvé très beau par contre. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est resté plus longtemps.
Tu m'étonnes, ça devait être un bon chubby baby.
Exactement.
Il devait être bien portant.
Quoi. Ouais, il était chubby, tout rond, bien rose. Bon, il n'avait plus du tout de vernix, il avait beaucoup de cheveux. Enfin, je veux dire, il était parfaitement formé, quoi.
Oh. Et du coup, tu restes combien de temps en maison de naissance par rapport
Alors, chez eux, le protocole, c'est entre 4 et 12 heures. Tu peux sortir.
D'accord.
Donc,
ils attendent juste que tu fasses ton pipi et bisous, bonne année.
C'est à peu près ça, ouais. En gros, si tu arrives à marcher pour te rendre à la salle de bain toi-même et faire ton pipi, t'es good to go.
T'es good to go. Ok. Donc, c'est comme aux Pays-Bas.
Mais c'est plutôt pas mal parce que moi, du coup, j'ai fait une grosse sieste. Et puis, j'ai fait mon sac. Et puis, je suis partie chercher mon premier qui était chez ses grands-parents. Et on a dîné à la maison. Et puis, voilà.
Mais c'est vrai que c'est cool parce que t'as pas à attendre que la péri redescende, que t'aies à te gratter pendant 3 heures sur ton lit. Ouais, non, j'aime bien ce truc-là. Mais c'est cool parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, des maisons de naissance aux États-Unis, tu vois.
Ouais, mais enfin, moi, je sais pas, peut-être que c'est une niche et que forcément tu te retrouves dans une echo chamber parce que tu parles qu'avec des gens qui ont fait la même chose et tout. Mais j'ai eu l'impression que c'était quand même vachement plus répandu qu'en France. Tu vois, en France, il y en a 8 ou 9 des maisons de naissance sur tout le territoire. Et je sais que là, il y a un projet de loi qui est sorti en 2021, qui vient d'être publié là, pour en ouvrir 10 nouvelles, je crois, ou 12 nouvelles, parce qu'ils se sont rendu compte que ça marchait très bien et qu'en fait, ça limitait vachement le recours aux instruments, voire aux césariennes d'urgence. Et donc, forcément, c'est un coût moindre pour la sécurité sociale.
Ouais, et puis regarde, toi, en 4-5 heures, t'étais partie. Donc,
Exactement. Donc, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte que potentiellement, si c'est un souhait des mamans et futures mamans, ça va faire du bien au trou de la sécu.
Ouais. Donc, tu sors de la maison de naissance, tu vas récupérer Lilo J. Et comment ça se passe alors la rencontre avec Lilo J et Tanguy ? Il était content déjà d'avoir un petit frère ?
Ouais, il l'a aimé tout de suite. C'est vrai que tu sais jamais trop comment le premier va réagir, surtout qu'il avait pile 2 ans. Et non, il l'a aimé tout de suite. Alors, un peu trop, je t'avoue que parfois c'est un peu stressant parce que il veut le porter et puis il lui fait des câlins, genre vraiment il va l'étouffer, quoi. Mais la rencontre s'est très bien passée. Non, et puis tu vois, t'es dans le confort de ton chez-toi, de ta chambre, de ton lit. Enfin, pour moi, ça a vraiment tout changé. Je sais pas, t'es dans ton environnement, t'es pas stressé. Encore une fois, il n'y a pas des gens qui font des allers-retours dans ta chambre. Je pense que ça, de toute façon, les enfants, ils le ressentent et donc forcément, ça peut que bien se passer, quoi.
Mais alors, comment vous êtes organisé avec ton conjoint, étant donné que lui est étudiant, j'imagine qu'il n'a pas de congé parental.
C'est ça, mais par contre, j'ai eu la chance d'accoucher pendant les vacances scolaires.
Ta belle-maman ?
Non, j'ai accouché pendant les vacances scolaires, donc pendant 2 semaines, en fait, mon copain, il était à la maison. Et ça, c'était très appréciable. C'est cool. J'avais préparé plein de petits plats que j'avais mis au congèle pour anticiper justement et pas avoir besoin de cuisiner.
Ouais. Et bon. Ça c'était pas mal.
Ouais. Et puis après voilà, quand t'as un nouveau-né, le ménage, ça passe en deuxième et puis tu te déculpabilises un peu du screen time pour le premier quand t'as besoin.
Oui.
Netflix est ton ami quoi.
Disney Plus.
Ouais, exactement.
Et qu'est-ce que je voulais dire ? Mais alors, t'as quand même ta belle famille autour de toi. Ils sont pas venus te mettre la main à la pâte. Je pense par exemple à ta belle-mère, tu vois, elle pourrait te faire...
Ouais, alors après, bon, ça c'est des... On va pas rentrer dans des débats politiques, mais si tu veux, ici en Géorgie, situation Covid inexistante. On porte atteinte à leur liberté en leur demandant de porter des masques.
C'est vrai, j'avais oublié qu'on n'est pas...
Et moi, je suis pas du tout là-dedans.
Attends, on est sur un état rouge ou un état bleu ? Je crois que vous êtes passé...
Non, cette année, on est passé bleu.
Ah, quand même.
Ouais.
Bon, il y a de l'espoir.
Oui.
Ouais, non, donc du coup, je comprends.
Donc, on a beaucoup limité.
T'as pas envie de mettre tes enfants dans une mare à germes.
Exactement.
Et alors, comment ça se passe ton postpartum par rapport au précédent?
Ah bah, de toute façon, c'est pareil, ça pouvait être que mieux. Si tu veux, pour mon premier, j'étais tombée tellement bas que, bon, déjà, j'étais préparée. Je veux dire, si j'ai survécu aux deux et quelques premiers mois de mon bébé RGO, seule, sans conjoint, sans amis, sans famille,
ouais.
Je me suis dit que là, ça pouvait que bien se passer. Donc, très, très bien. Et puis, on va pas lui enlever Tanguy, c'est une poupée, quoi.
Ouais, mais dans tous les cas, oui, même s'il était étudiant, il travaillait, enfin, je veux dire, il étudiait depuis la maison, vu qu'on était tous confinés, non?
Non, vous étiez confinés, Cindy.
Ah, vous, donc il devait être présent
et oui,
à l'école.
Ici, la fac est en
présentiel. Je veux dire,
ouais.
Oh la vache, sympa. Sympa, sympa. Donc, du coup, tu l'as mis à la cave?
C'est à peu près ça. C'était genre lavage de main 1000 fois par jour, le masque, attention, tu parles à personne.
Ouais.
Non, c'est pénible, mais...
Tu rentres à la maison, tu te fous à poil, on fait la lessive voilà. Direct.
Tu laves tes cheveux et ta barbe.
Non, il faut ce qu'il faut. Alors, quel bilan tu tires de ton expérience dans une maison de naissance? Globalement positif, et la facture au final est positive aussi?
Tout est positif. Je recommande plus. Okay. Je suis hyper reconnaissante pour cette expérience que j'aurais peut-être pas vécue si j'avais eu une assurance. Parce que peut-être que si j'avais eu une assurance au début, je serais allée à l'hôpital comme tout le monde sans vraiment me poser de questions.
Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce qu'on peut te souhaiter un... un troisième enfant dans un an et demi?
Mais moi, tu me demandes, j'en aurai 6, hein. Mais au bout d'un moment, faut se calmer.
Bah, si t'as l'énergie, quoi. Good for you, hein.
Moi, je suis plus toute jeune. Aux États-Unis, on sait combien coûte l'éducation. Donc, bon, je sais pas où on sera dans un an et demi, mais pour l'instant, en tout cas, je me satisfais de mes deux petits garçons. Et même si je les aime très, 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 très fort, je pense que ce qu'on peut me souhaiter, ce serait un daycare pour Little Jay.
Non, ben, je comprends du coup. Oui, je te souhaite volontiers un daycare. Moi, de toute façon, je pense que d'ici quelques semaines, tu seras un repère nécessaire à ma survie personnelle.
N'hésite pas.
Donc, non, je pense que je te trouve extrêmement courageuse, so far, quand même. Et puis, tu comptes reprendre une activité professionnelle aux États-Unis quand tu auras toute la situation administrative mise en place?
Eh bien, ça y est, c'est bon. Je suis officiellement détentrice de Green Card depuis à peu près une semaine. Donc, ça, c'est super.
Ah, une semaine en plus,
ouais.
Félicitations.
Eh bien, merci.
Bienvenue.
Merci. Donc ouais, on peut me souhaiter un job. C'est vrai que je pourrais pas reprendre l'activité que j'exerçais en France, mais ça ouvre la porte.
Mal,
exactement, on est bien d'accord.
Ouais, on sait que juriste, c'était ta passion, quoi.
Ouais, voilà, je vivais pour ça, je respirais juriste, je mangeais juriste, c'était génial.
Ouais, non, bah écoute, moi je te remercie en tout cas pour ton témoignage. Je pense qu'on a appris plein de choses intéressantes sur les maisons de naissance aux États-Unis.
Ben merci à toi. Comme tu dis, on n'en parle pas assez. C'est important de faire passer le message que ça existe.
Oui, non, c'est très intéressant. Et c'est un bon substitut, mine de rien, quand tu n'as pas d'assurance santé. Et on sait que c'est un sujet très... je ne sais même pas quel mot le définir. Très casse-pied. Mmh. Voilà, ça, c'est un très, très bon mot. Donc, non, merci beaucoup en tout cas de tes explications.
Ben merci à toi de m'avoir donné la parole. Ça fait plaisir.
Merci.
À bientôt.
Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao !